France Culture.
Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. La Cour internationale de justice se mobilise contre le dérèglement climatique. Elle accuse les États qui ne respectent pas leurs obligations de commettre un acte illicite qui pourrait les obliger à verser des réparations. L'Union européenne demande des explications à l'Ukraine après l'adoption d'une loi qui limite le pouvoir des agences anticorruption. Une partie de la population ukrainienne a commencé à manifester contre ce texte. Fabien Mandon, un aviateur qui a tué des talibans en Afghanistan, est le nouveau chef d'état-major des armées françaises. Il succède à Thierry Burkhard dans un contexte international de plus en plus tendu. La loi du plomb sera promulguée, affirme la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, malgré la pétition qui réclame son abrogation et qui approche ce soir les 2 millions de signatures. La Cour internationale de justice ouvre donc la voie à des réparations climatiques. La plus haute juridiction de l'ONU, basée à La Haye, a rendu aujourd'hui un avis très attendu sur les obligations des États pour freiner le dérèglement climatique. Elle avait été saisie par des étudiants du Vanuatu, un archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux. Caroline Félix, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le président de la Cour internationale de justice, Yuji Iwasawa, a lu pendant 2 heures une synthèse de cet avis d'une centaine de pages au total.
Le président qui a répondu à 2 questions. La première, quelles sont les obligations des États en matière climatique ? Réponse des 15 juges, ils doivent avoir la contribution la plus ambitieuse possible pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Une réponse forte d'après Sandrine Maljean-Dubois, juriste et directrice de recherche au CNRS.
Leur contribution doit être réellement la plus ambitieuse possible. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour considère que l'objectif c'est 1,5 degré. Donc les contributions nationales, si on la suit, elles doivent être suffisamment ambitieuses pour permettre d'atteindre cet objectif de 1,5 degré. Et dans le contexte actuel, qui est un contexte où il y a vraiment des tentations de régression, c'est particulièrement important. Je pense que la Cour insiste sur ce point.
Et la deuxième question portait sur les conséquences juridiques des États les plus pollueurs. La réponse de la Cour est plus nuancée, mais elle ouvre la voie à des réparations pour les pays les plus lésés. Alors à quoi va servir cet avis ? Il doit influencer la jurisprudence mondiale en donnant une interprétation claire des textes déjà existants.
C'est une vision ambitieuse et stricte du droit international qu'offre la Cour. C'est une interprétation qui va avoir beaucoup de poids, aussi bien dans les négociations internationales, on peut l'imaginer en particulier durant les prochaines COP, mais aussi durant des contentieux internationaux. Ce que dit la Cour va pouvoir être mobilisé, par exemple par des ONG qui saisissent un tribunal national contre une entreprise ou contre un État qui n'aurait pas une politique climatique suffisamment ambitieuse.
Et sur cette base, ajoute la juriste, certains États pourraient saisir des juridictions internationales contre d'autres États.
Caroline Félix, merci. Le dérèglement climatique qui entraîne une hausse des épisodes caniculaires un peu partout dans le monde. En France, la canicule du début de l'été a coïncidé avec une surmortalité. 480 décès de plus que la normale entre le 19 juin et le 6 juillet. Il est encore trop tôt pour dire si cette surmortalité est entièrement imputable à la chaleur, précise Santé publique France. L'organisme publiera un bilan estival complet après le 15 septembre. En difficulté face aux assauts militaires russes, l'Ukraine doit maintenant affronter le mécontentement de l'Union européenne. Bruxelles préoccupée par la loi adoptée par le Parlement ukrainien qui supprime l'indépendance des 2 principales agences anticorruption du pays. Une loi promulguée hier soir à la surprise générale par le président Zelensky. Le texte freine l'Ukraine dans son chemin vers l'UE, affirme la diplomatie allemande. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir.
Ce passage en force suscite la colère d'une partie de la population ukrainienne. Même chose du côté de l'Union européenne, où l'initiative est qualifiée de sérieux recul.
Oui, et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé aujourd'hui, je cite, « des explications à Volodymyr Zelensky. Le respect de l'état de droit, selon la Commission, reste au cœur des négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. L'Ukraine est censée respecter pleinement les normes. Il ne peut y avoir de compromis ». En France, le Quai d'Orsay se dit également préoccupé par cette décision. En visite en Ukraine hier et avant-hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a d'ailleurs affirmé à son homologue ukrainien que la France serait vigilante à ce sujet.
Et après des manifestations hier soir d'une partie de la jeunesse ukrainienne, Volodymyr Zelensky a défendu une nouvelle fois cette réforme, Virginie.
Tout en disant, je cite, « entendre ce que la société dit ». Selon lui, ces deux institutions anticorruption étaient inefficaces en l'état et surtout, elles doivent, je cite, « être débarrassées de toute influence russe ». Il y a quelques jours, des perquisitions ont eu lieu dans ces deux institutions. Les autorités ukrainiennes disent craindre que les accusations de corruption soient instrumentalisées pour saper l'effort de guerre, d'où leur mise sous contrôle. Oui, mais selon les observateurs, Volodymyr Zelensky semble avoir bien mal interprété l'impact de ce texte sur ses alliés occidentaux, sans compter sur ceux qui s'opposent au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, comme la Hongrie de Viktor Orban, ou sur son principal ennemi, Vladimir Poutine, qui peut, lui, depuis le Kremlin, tranquillement se frotter les mains.
Décryptage signé Virginie Pironon. Merci. Ces tensions entre l'Ukraine et l'UE qui interviennent au moment où s'ouvrent de nouveau pourparlers entre Kiev et Moscou à Istanbul. Le Kremlin s'attend à des négociations très compliqué avec les Ukrainiens, déclare ce soir son porte-parole Dmitri Peskov. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est attendue à Pékin demain avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. La capitale chinoise qui accueille le 25e sommet entre l'UE et la Chine. Les deux grandes puissances célèbrent 50 ans de relations diplomatiques dans un climat tendu. Initialement prévu sur 2 jours, le sommet se limitera à une seule journée sur décision du régime chinois. Dominique André.
Le prétexte, c'est que les dirigeants chinois ont un agenda chargé, pris par différentes réunions au niveau du Parti communiste. La Chine n'accorde pas une grande importance à ce sommet qui devait initialement se tenir à Bruxelles. Les Européens ont donc décidé de faire le voyage, souligne Philippe Lecor, professeur de géopolitique à l'ESSEC, expert de la Chine.
Xi Jinping, le numéro un chinois, n'a pas souhaité venir à Bruxelles alors que c'était au tour de Bruxelles d'accueillir ce sommet. Et le seul moyen, dans une période de grande tension entre les grandes puissances, entre les États-Unis, la Russie, la Chine et une Europe qui essaie de trouver sa place, c'est de parler au numéro un chinois, Xi Jinping.
La priorité est ailleurs pour le régime de Pékin, qui focalise sur les États-Unis pour des raisons stratégiques, avec en tête son objectif de détrôner la première puissance mondiale.
La Chine veut s'imposer dans le concert des nations, le concert géopolitique, face à un président américain qui a effectivement décidé de retourner la table, et notamment en imposant des taxes douanières à tout le monde. Et la Chine est en pleine négociation. Vous savez qu'il va y avoir une rencontre Xi Jinping-Donald Trump à l'automne. Et l'Europe est un petit peu une puissance d'appoint.
La place n'est pas confortable en ce moment pour l'Europe qui souffre d'un déficit commercial en Chine de plus de 300 milliards d'euros en 2024, auquel s'ajoute un différend de fonds sur le soutien de la Chine à la Russie en Ukraine. La rivalité systémique est toujours d'actualité.
Plus d'une centaine d'ONG mettent en garde contre un risque de famine de masse à Gaza, où 2,5 millions de Palestiniens sont assiégés depuis 21 mois de guerre. Depuis le mois de mars, Israël laisse entrer au compte-gouttes l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Alice Moreno, les habitants de Gaza appellent ce soir la communauté internationale à réagir.
Elle a dû fuir Deir el-Bala et l'armée israélienne avant-hier. Amal al-Owaini s'est réfugiée dans le camp d'Al-Mawasi avec ses enfants.
Vous savez comment c'est, la chaleur sous les tentes, les petits, depuis qu'on a quitté la maison, ils me disent qu'ils veulent manger. Ils veulent qu'on achète des biscuits. Ma petite fille m'a demandé, « Maman, est-ce que papa peut nous emmener au supermarché ? Il n'y a rien à manger, pas d'eau potable. »
La jeune maman de 27 ans parvient très ponctuellement à se procurer de quoi survivre au marché noir.
Les prix sont exorbitants, bien sûr. Par exemple, si je veux acheter des légumes pour nourrir mes enfants à la place de la farine, les légumes sont très chers, jusqu'à 1000 shekels le kilo, soit environ 300 dollars.
Le mari d'Amal est reparti à Deir el-Bala dans l'espoir d'obtenir de l'aide des ONG.
Je ne souhaite rien d'autre que la fin de cette guerre pour que ma famille et mes enfants soient sauvés.
Dans les hôpitaux, plusieurs enfants sont morts de faim ces derniers jours. Ahmed El Farah, le directeur de l'hôpital Al-Nasser, il ne cache pas sa colère à l'égard des dirigeants internationaux.
Ils parlent de droits humains, d'humanité et de moralité, mais ils sont très loin de ça.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, 111 personnes sont mortes de faim dans les hôpitaux depuis le début de la guerre. Près de la moitié des décès ont été enregistrés pour ce seul mois de juillet.
Et l'on apprend ce soir que le président israélien Isaac Herzog s'est rendu à Gaza, une première depuis le début de la guerre. Isaac Herzog qui affirme qu'Israël agit en accord avec le droit international dans le territoire assiégé par son armée. Selon le porte-parole du gouvernement israélien David Menser, il n'y a pas aujourd'hui à Gaza de famine causée par Israël. Fin de citation. Emmanuel Macron a choisi un aviateur pour diriger les armées françaises. Le général d'armée aérienne Fabien Mandon devient le nouveau chef d'état-major. Il succède à Thierry Burquart qui était en poste depuis 4 ans. Le général Burquart qui a accompagné la remontée en puissance des armées françaises face aux nouvelles menaces symbolisées par l'invasion russe de l'Ukraine. Fabien Mandon, lui, était le chef d'état-major particulier du président de la République. Frédéric Seyss, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Fabien Mandon, le nouveau patron de l'armée, est un ancien pilote de chasse.
Oui, c'est la première fois depuis 27 ans que le chef d'état-major est issu de l'armée de l'air, tout sauf un détail. Au moment où la guerre en Ukraine, mais aussi le conflit entre Israël et l'Iran, ont montré l'importance de maîtriser le ciel, missiles, drones, défense anti-aérienne au cœur de la stratégie militaire. Le général Fabien Mandon, 55 ans, devra donc poursuivre la transformation de l'armée française, une armée plus habituée ces dernières années à la guerre asymétrique, c'est-à-dire l'engagement contre des groupes terroristes au sol, par exemple au Sahel ou en Afghanistan. Mais pour justifier ce recrutement, l'entourage d'Emmanuel Macron évoque d'abord la confiance qui lie les deux hommes. Depuis 2 ans, le général Mandon était le plus proche conseiller militaire du président, son chef d'état-major particulier. Ceux qui l'ont fréquenté décrivent un homme calme, à l'écoute et doté d'un sens politique affûté. D'ailleurs, sa proximité avec Emmanuel Macron avait parfois provoqué des frictions avec la cellule diplomatique de l'Élysée. Le chef d'état-major des armées siège chaque mercredi matin au Conseil de défense, cénacle top secret au sein du PC Jupiter dans les sous-sols de l'Élysée. Fabien Mandon remplace le général Burquart, touché par la limite d'âge qui était donc en poste depuis 4 ans.
Frédéric Seyss, merci. Emmanuel Macron qui suit de très près la pétition contre la loi Duplomb. Plus d'1 800 000 signatures ce soir pour demander l'abrogation de ce texte qui réintroduit sous condition l'acétamipride, un pesticide interdit en France. Le chef de l'État s'exprimera après la décision du Conseil constitutionnel attendue d'ici le 10 août. En revanche, au sein du gouvernement, 2 ministres LR défendent ardemment cette loi Duplomb. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Marion Ferrer, bonsoir.
Bonsoir.
Au cours d'un déplacement dans le Val d'Oise, consacré aujourd'hui à la lutte contre les rodéos agricoles, les 2 ministres ont répété leur attachement au texte.
Annie Genevard et Bruno Retailleau, qui ont tout de même promis aux agriculteurs plus de fermeté pour lutter contre ces rodéos agricoles. Point de départ initial, on le rappelle, de ce déplacement dans le Val d'Oise, où rien que cette année, 56 interventions ont été menées par les gendarmes après des courses motorisées illégales dans les champs qui ravagent les cultures et plantations. Mais les 2 ministres ont été très vite rattrapés par la loi Duplomb, Bruno Retailleau rappelant encore les arguments du gouvernement.
Interdire l'acétamipride alors qu'on appartient à l'Europe, alors que l'acétamipride est autorisé dans des conditions beaucoup plus laxistes dans les 26 autres pays européens, c'est se condamner à importer justement ces produits qui contiennent cette molécule, alors que nous, il y a un certain nombre de garde-fous que la loi a mis en place.
Et quant à la pétition, la ministre de l'Agriculture confirme qu'un débat est possible à l'Assemblée, mais assure que le président n'envisage pas de nouvelles délibérations au Parlement.
Il n'a pas été question du tout d'une seconde délibération, ce qui me paraîtrait être extrêmement périlleux. Ça contreviendrait à ce que les parlementaires eux-mêmes ont voté. Et puis ensuite, on compromet possiblement l'issue d'une loi qui, je le rappelle, vise à lever les entraves qui pèsent sur le métier des agriculteurs.
Et si Emmanuel Macron demandait tout de même cette seconde délibération, il ferait une grave erreur, glisse Bruno Retailleau.
Marion Ferrer, merci. Bruno Retailleau à la manœuvre également dans la crise franco-algérienne. Le ministre de l'Intérieur va restreindre les conditions de déplacement sur le sol français de plusieurs dignitaires algériens accusés de dénigrer la France. Le nombre n'a pas été précisé. Mesure de rétorsion prise après le refus de l'Algérie de reprendre 120 de ses ressortissants sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Nous sommes dans un rapport de force avec l'Algérie sur cette question, a expliqué la porte-parole du gouvernement gouvernement Sophie Primas. La France qui réclame aussi à Alger la libération de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise. Un mot du temps pour ce soir et demain. 14 départements en vigilance orange, pluie, inondation en raison d'une vague orageuse. La zone concernée englobe la région parisienne, mais aussi l'Aisne, l'Aube, la Marne, l'Eure-et-Loire et le Loiret. Le risque d'orage touchera en fait la plupart des régions demain, mais il épargnera le pourtour méditerranéen. Demain matin, il fera entre 12 et 22 degrés. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia. À la technique, il y avait Alexandre Dang.